Broadway, broad veut dire large en anglais et way le chemin.
Once upon a time there was a railroad line. Don't ask where, brother, don't ask.
Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale Broadway.
Ça me donne envie.
En effet, nous avons eu la chance d'interviewer Agathe Prunel, ancienne élève du conservatoire en piano et en danse, qui est allée étudier la comédie musicale à Broadway et qui nous racontera cette expérience exceptionnelle.
Pour nous plonger dans cette culture américaine, je vous propose d'écouter un extrait de la comédie musicale New York, New York.
New York is a major chord. A major chord is when everything in your life works out perfectly. One is music, two is money, and three is love. Lift up that note, lift up that balloon note. Let's play a major chord. You sound so sad, don't play that sad note. Let's play a major chord. When you play a minor third, it makes me wanna cry my eyes out. I get caught up in the past and I'm a mess until my memory dries out. So be a pal, leave out that bad note. Make it a gift to the Lord. Hallelujah, he'll say, when the band begins to play. And make chromatic, don't get dramatic. The chord I'm singing of, it's music, money, groove. Don't play a flat note, don't lead with that note. Lay down a fat beat, lift up those flat feet. Let's play a major chord. While you wonder where to go, you could be doing a debating. Take a chance, you never know if you are open to it. Love may be waiting.
Okay, I'll play along. How do I get my major chord?
You got number one, music.
And when you got the music right, bam, the money follows.
That's number two. All that's left, number three, love.
The hardest of all.
J'en profite pour vous rappeler que le programme de notre orchestre symphonique pour le concert du Nouvel An sera autour des chansons de Broadway.
Et l'audition Cham, 14 février à 18h30 à l'Auditorium Grenier autour du répertoire de Broadway.
Broadway, où est née la comédie musicale au début du XXe siècle, là où elle a grandi avant de conquérir l'Amérique tout entière et le monde sous toutes ses latitudes en rencontrant le cinéma parlant.
Getting coffee at a gas station on the main drag when suddenly the entire place goes quiet. Even the people outside are standing still. And I look up at the TVs and realize it's a national moment of silence in America. And these Newfoundlanders, these people from another country, they maintain that moment of silence. I don't know if that had happened back home. At a busy gas station on the main drag, but it happened here.
Broadway est un monde spécial. D'incroyables histoires y ont ainsi pris place, incarnant les extravagances new-yorkaises.
And when we get there, I light a candle for my son.
And I do too.
I suddenly realized what that music was from my dream. It's an old hymn from when I was a kid. Now, I haven't been to church in years, but for some reason, that song was in my head.
Ainsi, fin 2018, certains fans étaient prêts à débourser la somme folle de 40 000 dollars pour un billet de Springsteen on Broadway, alors que l'artiste achevait sa résidence à Broadway après 236 shows. Mais d'où vient cette passion dévorante?
Make me a channel of your peace.
life, where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. Shalom, Lord. Oh, yes, shalom, aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'emru, ve'emru.
Nous avons invité quelques spécialistes, Dominique Jandot, Daniel Ringol, Lucien Rion, Marion Vidal et N.T. Bean, qui vont nous éclairer de leur lumière de passionnés de Broadway.
Ça me donne envie.
La comédie musicale à Broadway. La comédie musicale est-elle un genre à part ?
C'est le genre qui réunit la plus grande quantité de talents. Et en plus, les numéros musicaux sont inusables. Une comédie musicale, on peut la revoir 50 fois, ne serait-ce que pour les numéros musicaux. Alors qu'il y a peu de films, à moins des très grands, qui tiennent le coup au bout de la 12e ou 15e fois. Il y a aussi, lorsqu'on les revoit et qu'on les revoit encore, la conscience du travail que ça a demandé et du degré de perfection auquel ces gens sont arrivés. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est dans le premier ou dans le second de ces films rétrospectives, il y avait un numéro dansé par Fred Astaire et Eleanor Powell. C'était un numéro de claquettes qui était absolument fabuleux. Mais vraiment d'une précision et d'un degré d'achèvement qui avait rarement été atteint. Et pourtant, Dieu sait que Fred Astaire a fait des choses extraordinaires. Et j'ai appris par la suite qu'ils avaient répété ce numéro pendant des semaines et des semaines, à raison de certainement 8 ou 10 heures par jour, et qu'à la fin, ils dansaient presque en état d'hypnose.
Quels sont les rapports entre Broadway et le cinéma ?
Je vais vous dire, c'est très accessoire, le cinéma. Hollywood s'est toujours emparé des sujets et des partitions quand ils avaient été clos à Broadway. C'est très rare, à part Singing in the Rain, qu'on ait écrit vraiment un sujet pour le cinéma. Ça part toujours d'une pièce. Non, quand on parle comédie musicale, il y a un mot qui vient à l'oreille, c'est Broadway.
Et avec le jazz ?
Tous les grands standards de jazz sont nés des partitions de comédie musicale.
Pouvez-vous nous situer Broadway ?
Broadway, environné par deux artères principales, d'une part Tin Pan Alley, d'autre part 42nd Street, 42e rue. Tin Pan Alley, c'est le début. C'est, si vous voulez, jusque dans vers les années 35-36. 42nd Street, les maisons d'édition, les bureaux des super compositeurs émigrent et partent de l'autre côté de Broadway. Les théâtres de Broadway, l'Adelphi, le Palace, le Schubert, le Winter Garden. Il faut avoir vu une comédie musicale à Broadway pour se rendre compte de ce que c'est. On ne peut jamais égaler ça.
D'où vient la comédie musicale ?
Vous savez, la comédie musicale, le personnel qui a joué dans la comédie, le personnel, c'est entre guillemets, c'est-à-dire les artistes qui ont joué dans ces spectacles-là, sont venus du vaudeville. Si vous prenez un exemple des revues des Marx Brothers à Broadway, avant qu'ils fassent des films, c'était Al Cheese, Coconuts, des choses comme ça, c'était des comédies musicales, burlesques, mais c'était des comédies musicales. La comédie musicale, il a bien fallu trouver les gens qui puissent la jouer. Or, au vaudeville, il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on était un peu plus que simplement un chanteur, si tout au moins on voulait percer. Vous avez des gens comme Eddie Cantor, par exemple, qui a été un jongleur d'abord, après ça qui a été un chanteur, puis qui a raconté des histoires, qui est devenu un comédien. Mais c'était normal, ça faisait partie de l'éducation du vaudeville, c'était comme ça.
Sur quoi est basée l'opérette, ancêtre de la comédie musicale ?
L'irréalité totale, le refus du temps qui passe, le refus de l'époque, le refus du monde dans lequel on vit. On va voir une opérette, comme on part en vacances, avec une différence pourtant, c'est que l'opérette est beaucoup plus truquée que les vacances.
Mais alors, d'où vient la comédie musicale ?
Au départ, nous n'avons pas vraiment la comédie musicale, nous avons donc cette opérette viennoise, et nous avons un genre spécifiquement américain qui s'appelle le vaudeville, le burlesque, qui est un ensemble de petits sketchs et de revues à grand spectacle, et c'est par là que va s'américaniser la chose.
Pourquoi le cinéma s'est-il emparé de la comédie musicale ?
Parce que quand cette machine étonnante, qui a été le talking movie, le film parlant, a pris sa naissance à Hollywood, automatiquement ils se sont jetés sur ces gens-là qui étaient les premières vedettes, parce qu'elles avaient déjà un énorme public. Al Johnson va créer le premier film parlant, qui est une comédie musicale, qui est une opérette qui s'appelle Le Chanteur de Jazz. The Jazz Singer. Bon. Mais pour l'instant, Al Johnson, nous le retrouvons dans ses revues fabuleuses, un peu inspirées des revues de Paris, d'ailleurs. Vous voyez, avec le système des girls, avec les escaliers, avec tout ça, qui se déroule au Winter Garden.
Une anecdote sur cette histoire musicale ?
Al Johnson va à Tin Pan Alley et fait toutes les maisons d'édition. Et c'était une révolution, comprenez-moi, quand M. Al Johnson venait chercher du matériel. Et à la fin de la journée, il était chez David McKate, qui était un très très grand éditeur, et il était 7 heures du soir, il n'avait toujours rien trouvé, tout le monde faisait une mine d'enterrement. Il y avait un petit song plugger, un petit tapeur de piano, puisqu'à l'époque, on jouait les chansons, il n'y avait pas de magnétophone, il n'y avait rien, on les jouait au piano, on les montrait comme ça aux artistes. Et ce petit song-plugger ose dire à M. Johnson, « Je m'excuse, sir, mais j'ai composé une petite musique. Est-ce que je peux vous la montrer ?» Et Al Johnson, qui n'en était plus à une près, dit « Pourquoi pas ?» Et le petit compositeur de 19 ans s'appelait George Gershwin. C'est déjà les airs qui vont faire chanter le monde de 1920 à 1980. La force de cette musique a été inégale.
Que se passe-t-il en 1879 ?
On a vu arriver une première pièce qui se déroulait avec des personnages de la vie de tous les jours, dans des situations de la vie de tous les jours, mais complètement embellies par l'apport de la musique et de la danse. Alors le personnage qui a fait ça, c'était Ned Salisbury. Ned Salisbury a laissé son nom sur un tout autre plan qui est Ned Salisbury, c'est l'homme qui a découvert Buffalo Bill et qui a fait de Buffalo Bill une légende. Ned Salisbury avant avait travaillé dans des compagnies de minstrel, donc était déjà formé à cette école du spectacle, des spectacles de plantation musicaux et avec tous ces ingrédients qui vont servir dans la comédie musicale. Et il a monté un spectacle qui s'appelait The Brook et qui a été un spectacle à moyen budget, disons, et qui parlait de problèmes de la population américaine, du public de tous les jours, avec chant, musique et danse. Et ça, ça a été vraiment la première comédie musicale avec les ingrédients qui existent toujours actuellement dans la comédie musicale américaine. C'est 1879, donc c'est quand même assez vieux.
Quelle est la particularité de la comédie musicale ?
Et la comédie musicale a cet avantage, c'est pour ça que c'est une forme qui a eu un développement considérable, c'est que c'est un spectacle qui a une forme d'onérisme, qui a une forme d'extraordinaire, de sortir un peu de la vie ordinaire et de donner une vision complètement embellie, extraordinaire, ce qui évite de rentrer dans le détail des problèmes de chacun. Parce que au moment où on chante, on danse, comme aucun des spectateurs ne fait ça dans la vie, c'est une sublimation.
quel avenir pour la comédie musicale ?
Mais vous savez, la comédie musicale est un genre dont on a toujours annoncé la mort, c'est un peu comme le western. Et puis, dès qu'il y a un succès, on dit « mais c'est la renaissance ». Je pense que la comédie musicale ne deviendra jamais un genre produit en masse comme elle l'était à Hollywood dans les années 30 et 40, mais que il y a un goût pour le public réel qui est en train de se perpétuer et de renaître de temps en temps, y compris dans le cinéma américain, mais via le cinéma français pour ce qui est de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, puisqu'il s'est inspiré aussi de la démarche de Jacques Demy, qui lui-même s'inspirait des comédies musicales classiques hollywoodiennes. Le recyclage est éternel.
Quelle est la force de la comédie musicale ?
C'est de prendre des talents qui sont très différents les uns des autres et d'arriver à leur faire construire un projet commun, y compris lorsque ils proviennent d'univers ou de styles musicaux très différents. Donc, en sous-texte de la fabrication d'une comédie musicale, vous avez l'espoir d'un monde où on pourra vivre ensemble et, si ça se trouve, chanter et danser ensemble.
Pour cet éclairage sur cette avenue magique et illuminée jour et nuit.
Ça me donne envie.
Mais comment apprendre à chanter, danser, faire des claquettes? Bref, faire de la comédie musicale.
C'est ce que va nous expliquer Agathe Prunel, qui est partie l'étudier à New York.
Maybe it lasted an hour.
Bonjour Agathe, merci de nous accorder cette interview. Tout d'abord, peux-tu nous raconter ton parcours artistique avant de partir aux États-Unis ?
Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors mon parcours artistique, moi j'ai commencé par le piano en conservatoire quand j'avais 6-7 ans. Et ensuite, je fais beaucoup de piano, j'étais en classe CHAM comme vous en 6e mais en région parisienne. Et ensuite j'ai déménagé ici en 5e et donc j'ai intégré le conservatoire de Bayonne en piano aussi. Et puis j'ai fait du théâtre ici au conservatoire aussi. Et ensuite, j'avais un peu ce rêve de faire de la danse depuis toujours. Donc je me suis dit, je vais me mettre à la danse. Et donc en 3e, j'ai intégré le cursus de danse contemporaine ici, au conservatoire. Et puis petit à petit, la danse a pris plus de place que le piano. Donc je suis rentrée en classe horaire aménagée danse au lycée Cassin. Et j'ai passé mon DEC en danse. J'ai aussi avancé pas mal en piano, en théâtre, donc je faisais un peu tout en même temps. Et après, donc après Bayonne, après la terminale, je suis au conservatoire de Lyon. Et là-bas, pareil, je faisais de la danse, du chant, du piano. Et donc là, c'était un peu une année pour bosser tout à fond, ne plus avoir le lycée à côté. Je faisais plus que ça, plus que le conservatoire. Donc ça me libérait vraiment du temps et donc je me préparais à passer des auditions jusqu'à que je sois prise à New York. Voilà.
Pourquoi as-tu fait le choix d'aller étudier dans cette école de comédie musicale ?
Alors, c'était un peu un hasard pour moi. J'ai trouvé... je connaissais pas du tout cette école. Et j'ai vu une publicité sur Instagram pour cette école. Ils venaient faire une audition à Paris. Et moi, à cette époque-là, je voulais passer des auditions pour des écoles de comédie musicale en France ou en Europe. Je me disais peut-être Londres, à la limite, voilà. Et quand j'ai vu cette audition, je me suis dit, je vais y aller pour le fun, pour voir comment ça se passe, pour m'entraîner pour les écoles où je veux vraiment rentrer en France. Et donc, du coup, j'y suis allée vraiment sans pression, plus pour me faire de l'expérience. C'était aussi en anglais. Donc, je me suis dit, ça va être un petit challenge aussi de parler en anglais pendant une audition. Et ça s'est très bien passé. Et donc, après, un mois et demi plus tard, je reçois un mail comme quoi je suis reçue. Et là, j'étais en considération parce que j'avais pas du tout projeté que j'allais partir à New York, quoi. Et donc, je savais pas du tout comment réagir face à cette nouvelle. Et puis après, c'est en parlant avec des amis, des professeurs, ma famille, mon entourage, des gens qui sont dans le milieu de la comédie musicale en France, qui m'ont dit, vraiment, New York, c'est là-bas que c'est né, la comédie musicale. Donc, c'est vraiment une opportunité de dingue. Et donc, j'ai fait le pas pour y aller.
Peux-tu nous raconter ton quotidien d'étudiante ?
Alors, mon quotidien, j'ai cours du lundi au vendredi. Je fais à peu près du 8h-17h, ça peut varier. Donc, on a cours de chant, de théâtre, de danse, de claquettes, de diction. On a à peu près entre 6 et 8 heures de cours par jour, donc c'est quand même des grosses journées de cours. Et après, le soir, soit on répète... des scènes qu'on a en groupe avec des partenaires, soit plus du travail individuel en chant, et puis après on rentre. Moi j'ai habité dans les dorms de mon école, c'est-à-dire l'internat, donc c'est là où tous les étudiants en habitaient, donc c'était à peu près un quart d'heure à pied de l'école, et donc on rentrait ensemble le soir, on mangeait, et après on se couchait tôt parce qu'il fallait se relever tôt le lendemain, donc c'était vraiment des grosses semaines, un gros rythme de travail, voilà.
As-tu du mal à t'adapter à la vie aux États-Unis ?
Du mal, pas tellement, parce que quand on n'a pas le choix, on est obligé de s'adapter, quoi. Et surtout au niveau de la langue, on est obligé de parler anglais, donc on se débrouille. Après, c'est sûr que y a des moments qui sont plus difficiles, parce que parfois on est frustré, on peut pas dire ce qu'on a envie de dire, parce qu'on n'a pas le vocabulaire pour. Il y a des choses culturelles qu'on comprend pas, des manières d'être. C'est pas la même culture, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau des relations avec les autres. Donc, il y a des choses qui ont été un peu difficiles. Pareil, l'éloignement avec la famille. Mais dans l'adaptation, j'ai été super bien accueillie à l'école. Je me suis fait très vite des amis, donc ça s'est très bien passé.
Que préférez-vous entre la musique, le chant, le théâtre et la danse ?
Franchement, c'est compliqué de décider parce que justement, je fais de la comédie musicale parce que j'aime les trois autant et que je pouvais pas me décider à faire que de la danse ou que du chant ou que du théâtre. Et donc, je saurais pas dire j'adore faire du théâtre parce qu'on peut devenir quelqu'un d'autre, mais en fait, quand on danse, on fait du théâtre. Quand on chante, on est obligé de faire du théâtre. Et enfin, tout est relié en fait. Donc, je pourrais pas trop choisir. J'avoue que compliqué.
Est-ce que ça a été dur pour toi de quitter ta famille pour partir étudier ?
Alors, en effet, ça n'a pas été toujours facile. Parce qu'il y a des moments où on se sent un peu seul. C'est étonnant, mais quand on est dans une très très grande ville comme ça, finalement, où il y a du monde partout, parfois on peut se sentir très seul. Et voilà, je m'y attendais un peu, quoi, que ça n'allait pas forcément être facile tous les jours. Et ça a été le cas, mais bon, après... Comme ça, on s'accroche, on est dans le travail, on a des amis. Heureusement, on peut s'appeler très facilement maintenant avec le téléphone. Donc, voilà, ça se fait.
Maintenant, quel est ton projet professionnel ?
Alors maintenant, donc là, je repars vendredi à New York. Et donc, je repars pour un an où je vais aller passer des auditions pour des spectacles là-bas et voir comment ça se passe. En même temps, j'aurai un petit job à côté pour payer ma nourriture, mon loyer, et en même temps passer des auditions, continuer à prendre des cours de danse, des cours de chant. Je dirais que mon projet professionnel serait d'être prise dans les spectacles et de vivre de ce métier, quoi.
Ça me donne envie.
Et Do I Hear a Waltz, qui vient de la comédie musicale Do I Hear a Waltz, ça veut dire est-ce que j'entends une valse. Et donc c'est une comédie musicale qui se passe en Italie et c'est l'histoire de Liona, une jeune femme qui est secrétaire à New York et qui vient prendre des vacances en Italie et qui tombe amoureuse de ce bel Italien. Et en fait, la chanson se passe dans Venise et elle se balade et tout d'un coup elle entend une musique qui est une valse, elle se demande est-ce que j'entends une valse, donc c'est un peu le comique de la chanson. Et en même temps, ça représente un peu les battements de son cœur parce qu'elle est en train de tomber amoureuse. Voilà, c'est une chanson très légère. I can't hear a wolf. Oh my lord, there it goes again. Why is nobody dancing in the street? Can't they hear the beat? Magical, mystical, miracle. Can it be? Impossible lyrical, is it me? No, it's you. I do hear a waltz. I see you and I hear a waltz. It's what I've been waiting for all my life to hear a waltz.
Émission réalisée par
Inès,
Amaury,
Jules,
Soizic,
Augustine,
Montage Salomé.
Pour retrouver toutes les comédies musicales que vous avez entendues dans cette émission,
allez sur la page Cham Radio,
sur le site
du Conservatoire.
Cham donne envie.